9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Les incidents se répètent depuis quelques temps à l'Assemblée nationale. On a l'impression que nos élus sont à deux doigts d'en venir aux mains. Marie Lebec, la députée des Yvelines, est ma première invitée. Elle va nous raconter. Et puis Emmanuel Macron, avant son voyage officiel aux États-Unis, s'est élevé contre le protectionnisme américain. J'ai donc invité Ali Laidi, l'auteur d'une histoire mondiale du protectionnisme, pour qu'il nous explique. Et l'on terminera l'émission avec un Chinois, Shubo, qui publie « Au commencement était Shanghai ». On reviendra avec lui sur les manifestations qui se sont multipliées en Chine cette semaine contre la politique zéro Covid du gouvernement.
Europe 1.
L'ambiance est de plus en plus tendue à l'Assemblée nationale. Les incidents se répètent, se multiplient, à tel point que des huissiers, seraient placés dans les travées pour éviter que les séances dégénèrent. Marie Lebec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée Renaissance de la 4e circonscription des Yvelines. Vous avez déclaré dans le Figaro que certains cherchent à en découdre physiquement, que vous n'avez jamais vu ça en 6 ans de Parlement. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? On a envie de comprendre.
Oui, exactement. C'est ce que j'ai pu dire dans le Figaro, notamment suite à la séance de nuit qu'il y a eu avec dans le cadre de la journée consacrée aux propositions de loi de la France insoumise. Et effectivement, après 6 ans de mandat et 5 ans sous la précédente majorité, j'ai ce sentiment que une forme de violence verbale et physique s'est aussi importée dans l'hémicycle et qu'on a beaucoup plus de moments de très vives tensions entre les parlementaires que ce qu'on a pu connaître les 5 années précédentes.
Mais on parle d'incidents quasi quotidiens, hein. On parle de violence, bien qu'aucun coup n'a encore été échangé, on parle de haine, ça paraît effectivement assez nouveau.
Moi, je voudrais dire pour vos auditeurs qui nous écoutent, pour les Français aussi qui nous regardent peut-être parfois à l'Assemblée nationale, souvent c'est vrai que certains disent « Ah, l'Assemblée, les débats sont houleux ». Mais il y a quelque chose de différent entre un débat houleux qu'on peut aussi avoir quand on est à un dîner de famille et qu'on a des oppositions politiques qui s'affrontent, et c'est normal. La politique, c'est une affaire de conviction, c'est une affaire de passion. C'est parfois des combats qu'on porte depuis très longtemps, et donc il faut accepter qu'il y ait des moments de tension. Ce que je note, c'est que inversement à ce qu'on a pu vivre par le passé, lorsque le président ou qui préside la séance à l'Assemblée nationale indiquait une suspension de séance, cela permettait souvent de faire retomber un peu la pression, de calmer les esprits. On sortait, on allait à la buvette boire un verre et ça faisait retomber la pression. J'ai le sentiment, sous cette mandature-là, que certains viennent presque chercher l'affrontement physique et effectivement profitent des suspensions de séance, donc des moments où finalement le débat n'est pas filmé, pour essayer de venir chercher l'affrontement physique. Et je trouve ça inquiétant, puisque ça veut dire qu'on n'est plus aussi capable de faire la part des choses entre des convictions qui peuvent être différentes et qui doivent être différentes, et c'est la richesse de notre débat parlementaire, et une espèce d'affrontement physique, parce qu'on ne supporterait plus, on ne tolérerait plus que l'autre ait un avis différent.
En fait, c'est comme un peu comme si toute la haine et la violence qui semblent monter dans la société, écrivait le Figaro, était en train de passer des réseaux sociaux à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en fait.
Oui, il faut souhaiter que non, mais effectivement, on voit aussi beaucoup chez les insoumis ce discours de dire de toute façon ce sera dans la rue ou dans l'hémicycle. Or moi, je crois que on a raison de s'affronter politiquement sur le fond, parce que nous avons des convictions qui sont extrêmement différentes. En revanche, je ne crois pas que l'hémicycle doive se transformer en ring de boxe pour certains. Et je vous dis, ce qui s'est passé à l'occasion de la niche de la France insoumise était quand même proche du dérapage physique, tant à l'égard des ministres que aussi parfois entre avec des parlementaires. Et vous avez très bien restitué mon propos. Effectivement, il y a parfois des moments de tension tellement fortes que les huissiers montent entre les travées pour empêcher un camp de passer de ses bancs à ceux d'un autre groupe politique. Et je constate que ça émane quand même souvent de la France insoumise, ce genre d'attitude.
Mais ça semble aussi cantonné aux séances de nuit, hein, qui se sont enchaînées ces derniers temps. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ça cause une grande fatigue, j'imagine.
Oui, alors je crois que c'est au-delà de la fatigue. C'est vrai que la nuit, on est sur un rythme qui est un peu différent. C'est vrai que la présence dans l'hémicycle de ceux qui sont présents la nuit est aussi plus forte parce que dans l'après-midi, vous pouvez avoir des rendez-vous avec des associations, des entreprises, de vos concitoyens. Donc il y a plus d'aller-retour. Vous rentrez, vous sortez de l'hémicycle, vous tentez de suivre les débats. La nuit, ceux qui sont dans l'hémicycle, ils viennent vraiment pour débattre parce que ils suivent le sujet, etc. Donc c'est vrai que aussi le fait d'avoir accumulé parfois les tensions d'une journée font que la nuit c'est un petit peu plus explosif, mais encore une fois il faut que chacun reste raisonnable puisque jusque sous les 5 précédentes années il y a eu des joutes verbales parfois très fortes, parfois très vives, sans que jamais personne ne cherche à en venir au bain. Moi je m'étonne quand certains de nos collègues disent viens on va régler ça dehors ou se précipitent dans nos rangs pour essayer d'empoigner un parlementaire par la chemise. La nuit ne justifie pas tout au final, donc je crois qu'il faut savoir raison garder. C'est vrai que souvent les tensions, les différends qui ont pu être accumulés dans la journée, comme tout à chacun, ça peut exploser un peu plus la nuit, mais encore une fois, on reste dans du débat politique et ça doit rester un débat de qualité, même si parfois ça peut être assez vif.
Est-ce que ça n'est pas lié, Marie Lebec, également à la tempête de propositions d'amendements qui s'abattent sur chaque projet de loi? Ça augmente sans cesse hein, depuis 2012 et les heures siégées par jour aussi.
Oui, alors on n'a pas, au fond, je crois qu'il y avait des statistiques qui avaient été établies, on n'a pas siégé beaucoup plus que à la même époque en 2017 et en 2022, donc c'est pas tellement une question de temps. Après, il y a effectivement parfois ce moyen légal, puisque je rappelle que quand même le droit d'amender est un droit fondamental du parlementaire, qui vient effectivement faire ce qu'on appelle de l'obstruction dans les débats. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de leçon de la part de la France Insoumise sur ce sujet, qui, je vous le rappelle, pour la réforme des retraites, avait quand même déposé pas moins de 17 000 amendements. Donc, il faut... ça fait aussi partie du débat parlementaire, c'est un moyen de blocage. Après, si une disposition était prise et acceptée et respectée par l'ensemble des groupes pour dire, plutôt que d'avoir un même amendement déposé par l'ensemble des parlementaires, une fois chaque groupe acceptait qu'un amendement qui serait considéré comme important ou sur lequel on voudrait faire un point de débat soit déposé qu'une seule fois par le groupe, moi je suis d'accord. Le constat que je fais, c'est que aussi parfois quand les groupes essayent de trouver un accord pour dire il faut que le texte avance, c'est un texte important, etc., on a des groupes, notamment chez les extrêmes, qui s'attachent à quand même ralentir le débat et à le freiner. Donc moi je suis pas contre qu'il y ait une réflexion hein, qui permette effectivement d'éviter ce jeu un peu de l'obstruction. Je pense que c'est pas sain forcément pour notre démocratie, surtout que après cette élection tout le monde s'était félicité de l'amélioration de la qualité des débats. Donc si chacun se met à faire de l'obstruction, on n'aura pas cette qualité des débats, ça c'est une évidence. Mais si accord il devait y avoir, il faudra que l'ensemble des groupes le respectent. Et pas seulement quand c'est pour ces textes, vous voyez ce que je veux dire.
Marie Lebec, vous disiez que vous n'aviez jamais vu de telles tensions dans la mandature précédente. Alors est-ce que ça n'est pas lié à l'absence dans cette mandature-là de majorité absolue? L'opposition s'en trouve regaillardie et quand la majorité est relative, chaque voix compte. On est sur un fil, donc tous les députés doivent être présents, on ne se repose jamais, chaque séance est importante.
Oui, effectivement, chaque séance est importante. On a parfois un peu l'alliance de la carpe et du lapin avec des alliances Rassemblement National, France Insoumise qui paraissent un peu improbables et dans des situations et dans des textes sur des sujets un peu improbables. Donc effectivement, la majorité est obligée d'être extrêmement mobilisée. Et inversement, les oppositions veulent se saisir de chaque petit moment de faiblesse, entre guillemets, en termes de mobilisation de la majorité pour essayer de remporter une victoire. C'est indéniable que ça change beaucoup la physionomie et le travail parlementaire, puisque avant, on avait un équilibre à peu près dans la présence entre la circonscription, ce qui est aussi très important, ne serait-ce que pour sonder nos concitoyens, les tester sur les lois qu'on veut porter, les projets qu'on veut défendre, apprendre aussi voir ce qui est incomplet, et ça c'est important, et le temps passé en hémicycle. Mais encore une fois, c'est aussi peut-être ce que nos concitoyens ont souhaité, d'avoir une assemblée qui soit plus représentative, et cette représentativité elle doit engager aussi chaque groupe parlementaire a respecté l'institution. Moi, j'estime que quand à chaque suspension de séance, parce que une opposition ne verrait pas ses dispositions satisfaites, elle descend pour alpaguer personnellement le ministre, pour être, vous voyez, dans une logique vraiment d'échange de proximité, comme quand vous avez, comme quand vous êtes en colère, ce n'est pas normal. Le jeu aussi de la démocratie, c'est quand la majorité à l'Assemblée nationale, aussi relative soit-elle, emporte, c'est aussi de respecter que la NUPES, le RN, restent des groupes qui sont minoritaires par rapport à la majorité relative que nous avons.
La présidente Yael Braun-Pivet voudrait réformer les rythmes de travail. Au Bundestag, par exemple, ils ne siègent qu'une semaine sur deux. Ils peuvent rentrer dans leur circonscription. Ça vous plairait, ça, non, peut-être ? Ça détendrait peut-être l'atmosphère.
Encore une fois, moi, je crois qu'il ne faut pas se priver de réfléchir à comment est-ce qu'on modernise le fonctionnement de notre Assemblée. Je crois qu'il y a peut-être une subtilité, c'est que les temps du gouvernement et les temps de l'Assemblée nationale sont constitutionnalisés.
Je vous entends très mal, tout à coup, Marie Lebec. Je vous entends plus. Bon, écoutez, de toute façon, on arrivait au temps, au bout de notre conversation. Ah là, ça y est, je vous retrouve. Mais voilà, on est arrivé au bout de la conversation. Je suis obligé
Cas, voilà, il ne faut pas se priver d'une réflexion pour moderniser le travail de l'Assemblée. Ça, c'est une évidence. Et on verra. Enfin, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience et d'intérêt ce que pourra proposer la présidente en ce sens.
Merci en tout cas, Marie Lebec, d'avoir été en direct avec nous ce matin. On fait une pause. On se retrouve tout de suite après avec Ali Laïdi. On va parler protectionnisme.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Emmanuel Macron, avant sa visite officielle aux États-Unis, a fustigé le protectionnisme américain, notamment les mesures destinées à créer une filière automobile électrique américaine au détriment de la concurrence européenne, ce qui risque de détruire des emplois chez nous. En effet, les consommateurs américains vont bénéficier de 7 500 $ de crédit impôt s'ils achètent une voiture électrique assemblée aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Ali Laïdi, vous êtes docteur en sciences politiques. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez une histoire mondiale du protectionnisme chez Passé Composé. Les Européens, dans ce cas précis, ont-ils raison de hurler au protectionnisme ?
Ah oui, c'est évident. Clairement, l'Inflation Reduction Act, qui est la loi qui a été votée en août dernier par le Congrès américain et qui va vraiment, pour le coup, privilégier le Made in America, va à l'encontre des règles de l'OMC. D'où la réflexion des Européens. Le premier réflexe, c'est de déposer plainte auprès de l'OMC. Mais quand on regarde le temps que met une plainte à l'OMC à aller au bout, exemple l'affaire Airbus et Boeing, plus de 16 ans, la solution, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dans ces dépôts de plainte, même si par principe, il faut sans doute le faire, mais il faut aller chercher d'autres solutions. Oui, c'est clairement une loi protectionniste de la part des Américains.
L'OMC, je rappelle, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Au fond, ce sont des mesures qui sont prises essentiellement contre la Chine, mais dont les Européens se retrouvent les victimes collatérales.
Oui, tout simplement. Il s'agit de battre la Chine dans une guerre technologique que a lancé le président Trump et que le président Joe Biden assume complètement. Il en va de la survie du leadership américain dans le monde. Pour la première fois, les Américains eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont en face d'eux un acteur qui a la volonté et les moyens de leur voler leur première place, que n'avait pas l'Union soviétique. Donc, ils se mettent en phase d'arsenalisation du commerce mondial afin de battre la Chine. Et évidemment, les Européens vont en subir les dégâts collatéraux qui vont notamment se traduire par une... non seulement ce que vous avez dit, des primes aux consommateurs pour qu'ils achètent du Made in America, mais aussi des primes ou des subventions ou des aides aux entreprises de manière à ce qu'elles viennent localiser leur production aux États-Unis. C'est sans doute ce qui fait le plus peur aux Européens, c'est de voir partir leurs entreprises parce que les États-Unis leur offriraient des conditions idéales de production.
Pendant deux siècles, le monde s'est largement ouvert. Les tarifs douaniers n'ont jamais été aussi bas. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un retour du protectionnisme ?
Clairement, mais il ne faut pas le dater d'aujourd'hui. Je pense que les premiers signes qui montrent qu'il y a un retour du protectionnisme, c'est évidemment la crise financière de 2008, où là, on a les premiers symptômes de réapparition de protectionnisme sous la forme d'augmentation très légère d'un certain nombre de tarifs douaniers sur un certain nombre de produits, essentiellement à l'époque, on va voir sur les produits de matières premières agricoles, puis aussi réapparition de ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, donc on ajoute pour faire entrer un produit dans ses frontières, on ajoute des conditions environnementales, des conditions sur les droits humains, etc., des conditions sur le sanitaire, etc. Donc on voit réapparaître dès 2008 du protectionnisme, et ça va se confirmer en fait tout au long des années qui suivent, et ça va sans doute se former de manière encore plus précise avec 2016 le Brexit, mais aussi 2016 l'élection du président Trump qui assume parfaitement les guerres commerciales, et puis évidemment avec le Covid et maintenant la guerre en Ukraine, où là on assiste vraiment à des mesures protectionnistes en très nette augmentation depuis 2-3 ans.
Ali Laïdi, dans votre livre, dans votre histoire mondiale du protectionnisme, vous dites que le protectionnisme, c'est le retour de la politique dans l'économie. Pouvez-nous dire pourquoi ?
Ben, parce qu'on a cru, entre la chute du mur de Berlin en 1989 et ces dernières années, qu'on pouvait faire de l'économie sans la politique, en gros sans la géopolitique, qu'on pouvait vendre des produits à l'autre bout de la Terre sans tenir compte des conjonctures politiques de ces pays-là. Et tout à coup, on se rappelle que ben non, il y a bien une géopolitique, il y a bien de la politique dans l'économie, et l'économie est fortement dépendante du politique. Et quand il y a des crises, évidemment, ça se réalise de manière encore plus forte, puisque c'est quand il y a des crises, 2008, les subprimes, le Brexit, Trump, etc., que justement l'économie, les entreprises se retournent vers l'État pour appeler à l'aide. 2008, souvenez-vous, c'est l'État aux États-Unis, en Europe, qui a permis aux entreprises de passer cette crise-là. Donc la politique revient au moment des crises, et ça, c'est flagrant. Et c'est sans doute ce qu'avait oublié les économistes traditionnels, c'est que la politique est toujours là.
On va faire une pause, Ali Laïdi. On va se retrouver juste après. On continue de parler du protectionnisme.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Ali Laïdi, l'auteur d'une histoire mondiale du protectionnisme. Alors vous nous expliquez dans ce livre qu'il y a deux formes de protectionnisme. Il y a du protectionnisme défensif et du protectionnisme offensif. Le protectionnisme défensif, c'est ce que font les Américains sur les voitures électriques, ce dont se plaint Emmanuel Macron, ou les Français avec l'exception culturelle. Mais le protectionnisme offensif, c'est quoi ?
Bah, c'est tout simplement la manière d'abord de protéger son propre marché avec l'objectif également d'attaquer le marché du concurrent. Je vous prends un exemple actuel. La Commission européenne, mais également les autorités sur la concurrence américaine, considèrent que les géants du numérique ont tendance à acheter les petites start-up innovantes, non pas pour les faire grandir, mais au contraire pour les tuer dans l'œuf afin qu'il n'y ait pas de concurrence demain. Ça, c'est du protectionnisme offensif, c'est-à-dire qu'on va anticiper sur la future concurrence et on va la tuer. Et donc les autorités de concurrence, à la fois à Bruxelles et à Washington, considèrent que ça dépasse le cadre de la loi et du respect de la concurrence pure et parfaite.
Vous dites également dans ce livre que c'est la révolution industrielle, au fond, qui a affaibli le protectionnisme. Jusque-là, à peu près tout le monde faisait du protectionnisme. Et puis là, tout à coup, les Occidentaux ont obligé quasiment les autres à s'ouvrir à leurs produits. On a fait la guerre à la Chine, on a forcé le Japon, on a forcé l'Empire ottoman.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a un grand débat pour dire, et souvenez-vous, 2017, la déclaration du président de la République, le protectionnisme, c'est la guerre. Aujourd'hui, il a un peu changé, puisqu'il considère qu'il faut du protectionnisme en Europe. Donc, il y a un grand débat pour savoir si c'est le protectionnisme qui amène à la guerre ou si c'est le libre-échange qui amène à la guerre. Dans l'histoire, on a vu les deux cas, tout à fait. Et notamment, lorsque les Européens, à partir du moment où, dès le XVe siècle, ils maîtrisent en gros les mers à travers la découverte de l'Amérique, mais aussi la découverte de la route des Indes via le cap de Bonne-Espérance. À partir du moment où ils maîtrisent complètement les mers, alors, et notamment nos amis britanniques, ils vont vendre le libre-échange. Alors, ils vont le vendre de manière à influencer les autres pays, notamment la France, en envoyant des agents du Board of Trade, donc du ministère du Commerce, pour que les Français adoptent le libre-échange de manière pacifique, mais aussi vont le vendre de manière violente, notamment en Asie. Alors, c'est les deux guerres de l'opium en ce qui concerne la Chine, mais c'est aussi la guerre que les Américains ont menée au Japon pour le forcer à s'ouvrir. Donc, en effet, il y a toujours la question de savoir qu'est-ce qui emmène à la guerre, mais en tout cas, il est vrai que le commerce, parfois lorsqu'il est protectionniste, parfois lorsqu'il est libre-échangiste, peut déclencher en effet la guerre.
Au fond, le libéralisme, le libre-échangisme, comme vous dites, il s'est imposé surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Américains qui l'ont imposé. Hein. Ils étaient en position de force à ce moment-là. Mm-hmm. Mais à partir du moment où ils vont souffrir de la concurrence avec l'Allemagne et du Japon, ils vont être obligés de se protéger eux aussi.
Tout
ça,
à
c'est
fait.
Le milieu des années 70, hein. C'est le retour au réflexe protectionniste.
Tout à fait. Alors, faut dire quand même préciser que il y a une tradition protectionniste américaine dès la création de l'État en 1776. Alexander Hamilton, qui est le premier secrétaire au Trésor, réfléchit sur la manière de protéger les entreprises américaines, ce qu'il appelle les entreprises dans l'enfance. Il peut pas s'ouvrir, les États-Unis ne peuvent pas s'ouvrir au libre-échange parce que leurs entreprises sont très petites, n'ont pas la taille suffisante pour concurrencer celle de Grande-Bretagne. Donc il y a déjà une réflexion protectionniste à la naissance même de la nation américaine. Et cette tradition va se poursuivre. En 45, en effet, ils ont la main, donc ils vont mettre en place des institutions comme le GATT, les institutions de Bretton Woods, pour ouvrir les marchés. Ça va marcher. On va passer en gros d'une moyenne de 40 à 50% de droits de douane à 3% aujourd'hui. Mais aussi, vous avez raison, ils vont s'apercevoir que ça va donner naissance à des concurrents importants, l'Europe, le Japon, etc. Et ils vont, dans certains secteurs, demander, contre les lois du GATT et de l'OMC, demander à ce que ces pays s'autocensurent quasiment. C'est-à-dire qu'ils restreignent leurs exportations de chaussures, d'électronique aux États-Unis. Sinon, ils les menacent de mesures de rétorsion très très fortes. Je vous parle même pas de la manière dont les différentes lois agricoles, à partir de 1945 jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, les fameux Farm Bill, ont permis un protectionnisme très fort de la part des États-Unis, qui consistait essentiellement pour l'État fédéral à acheter aux paysans et aux agriculteurs américains leur production, donc à leur garantir un prix, et ensuite à pouvoir vendre ces productions sur les marchés internationaux, soit en les vendant directement, soit en apportant leur production comme une aide humanitaire à un certain nombre de pays. Donc oui, il y a une tradition très forte de la part des États-Unis sur le protectionnisme. On a tort de penser que les États-Unis sont un pays parfaitement libéral.
En décembre 2001, la Chine est entrée à l'OMC. Elle a intégré la mondialisation économique. Elle en a été la grande bénéficiaire. Est-ce à dire qu'elle a renoncé à toute forme de protectionnisme ?
Non, pas du tout. Non, elle a franchement bien joué le jeu à sa manière, c'est-à-dire qu'en gros, elle a signé des accords pour entrer à l'Organisation mondiale du commerce, mais elle a en partie pas respecté un certain nombre de règles. Mais comme pendant toutes ces années, ça profitait aux Occidentaux de pouvoir pénétrer le marché, l'immense marché chinois, à aucun moment les Occidentaux n'ont poursuivi la Chine pour manque de respect des règles de l'OMC. Par exemple, le fait de forcer au transfert de technologies du Nord en Chine, en obligeant, si une entreprise souhaite s'implanter en Chine, à ce qu'elle transfère sa technologie, ça allait à l'encontre de l'esprit des règles de l'OMC. Mais à aucun moment, la Chine n'a été poursuivie pour ce manque à ces règles-là. Donc non, la Chine a parfaitement appris de l'histoire du protectionnisme et elle en a joué. Et elle sait pertinemment, elle a su pertinemment qu'il fallait avoir une façade libérale, mais que dans la pratique, il fallait rester quand même un minimum protectionniste.
Alors en fait, seule l'Union européenne a la réputation de n'être pas protectionniste. Le libre-échange est la règle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ?
Ah bah si, l'Union européenne est vraiment considérée comme plus royaliste que le roi sur un certain nombre de règles de la concurrence. Par exemple, regardez la manière dont la Commission fait en sorte qu'il y ait une vraie concurrence dans tous les secteurs en Europe. Or, aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Il y a des monopoles dans un certain nombre de secteurs et les Américains ont laissé faire à l'encontre même des règles de concurrence. Voyez comme les Européens eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont été naïfs. C'est le terme qu'ils utilisent depuis la pandémie et qu'ils ne seront plus naïfs dans les années qui suivent. Alors on verra très rapidement hein, s'ils sont restés, je veux dire, lundi, il y a une réunion du Conseil du commerce et des technologies, qui est un organisme qui a été créé en 2021 entre les Européens et les Américains. Et dans ce conseil, on réfléchit sur la manière de se coordonner le commerce, de coordonner aussi les investissements dans la technologie pour évidemment se protéger de la Chine. Donc on va voir si les Européens mettent sur la place la fameuse loi américaine qu'ils considèrent comme extrêmement agressive. Donc on va voir s'ils sont capables aussi de se défendre face aux États-Unis.
Merci Ali Laïdi, je renvoie à la lecture de votre livre « Histoire mondiale du protectionnisme ».
Merci.
C'est paru chez Passé Composé. On fait une pause et on se retrouve avec un Chinois, un vrai, c'est Choubo.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Choubo, bonjour.
Bonjour Monsieur Taddeï.
Vous êtes chinois de Shanghai, vous êtes universitaire, vous êtes l'auteur de Shanghai à Paris, Mon regard sur la nouvelle Chine, qui était paru chez Odile Jacob, et d'Edo, Commencement était Shanghai, aux éditions Sidney Laurent, un dialogue entre votre mère nonagénaire à Shanghai et vous, retenue en France par l'épidémie de Covid-19. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Pourquoi c'est votre mère qui vous a convaincu de rester?
Non, c'est-à-dire que partir pour Shanghai, d'abord, il n'y a pas d'avion, c'est très rare, et puis souvent des déjonctions. Même si vous avez le billet d'avion, vous devez monter. Si vous avez dépassé 4 cas positifs dans l'avion, ça s'arrête. Donc c'est une politique assez contraignante. Après, quarantaine. C'est la quarantaine qui me dérange beaucoup. Mais il faut dire qu'au début 2020-2021, c'est plutôt en France, c'est le confinement.
C'est vrai.
Que des confinements.
Alors, on a assisté cette semaine à une épidémie de manifestations en Chine, notamment à Shanghai. On n'avait pas vu de Chinois manifester dans la rue depuis plusieurs décennies. Ce qui est invoqué, c'est la politique zéro Covid, hein, qui confine strictement les gens chez eux, notamment les 20-30 ans qui, eux, sont pourtant vaccinés. Quelle est votre réaction à vous, en tant que Chinois? Voir des Chinois manifester, ce n'est pas tous les jours quand même.
Ce n'est pas tous les jours. Je suis surpris comme vous, surtout éloigné de 10 kilomètres, 10 000 kilomètres par rapport à mon pays qui m'éloigne un petit peu. Je ne connais pas cette Chine parce que je connais la Chine de 2019, maintenant c'est 2022. Et cette manifestation, c'est-à-dire une semaine, hein, c'est carrément samedi, dimanche. C'est très spontané, c'est assez généralisé. Ça m'a beaucoup surpris. Je suis assez inquiet, mais pourtant je comprends parce que le confinement a été trop long. Ça fait 3 ans. Le confinement, c'était très bon pour 2020-2021. C'était très efficace. Mais 2022, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc, les Chinois regardent. Il se dit que pourquoi nous sommes confinés depuis 3 ans? Moi, je pense que mettons à la place de la jeunesse, surtout les jeunes qui ont manifesté dans le campus, ils n'ont pas une scolarité correcte comme tous les étudiants qui font. C'est-à-dire qu'ils font des cours à visio, ils ne connaissent pas l'un l'autre. Il est passé 3 ans à l'université, que sur l'Internet, à visio. Et puis les autres, vous savez, depuis 3 ans, le confinement fait du mal aux gens, les petits commerces, tout ça. C'est le malaise, mais je comprends. Mais c'est comme ça, c'est la vie.
Mais la politique zéro Covid, ça nous semble aujourd'hui une aberration à nous les Occidentaux, mais elle s'explique. Hein, en Chine, à Hong Kong, quand la politique zéro Covid a été abandonnée, les hôpitaux se sont retrouvés débordés, la mortalité a été très élevée, hein, car les personnes âgées étaient peu vaccinées. Et en Chine, c'est pareil. Ils pourraient se retrouver avec 1 million de morts en un rien de temps. Hein.
Oui, c'est ça que je pense que le gouvernement qui a pensé que si on a laissé ce qu'on appelle un cours libre à les gens qui se débrouillaient, n'est pas un gouvernement responsable. Donc c'est pour ça que la politique Covid zéro, elle tient la route. Mettons le cas de mes parents. Comme vous avez lu mon livre, ma mère 90 ans, mon père 95 ans. Ils ne sont pas vaccinés.
Et pourquoi, donc, vous savez pourquoi les gens âgés en Chine ne veulent pas se faire vacciner?
Peut-être ils ont peur, peut-être ils ne pensent pas que ça les concerne. De toute façon, vous savez, en Chine, les gens au-delà de 80 ans, qui peut-être c'est 80% ou 95% sont vaccinés, ce n'est pas ici. Après, il n'y a pas de troisième rappel, quatrième rappel. Après, le vaccin chinois, il n'est pas très fameux pour lutter contre Omicron. Il était excellent pour le Covid. C'était 2020, 2021. Maintenant, le virus, il a changé un peu de nature. Il est beaucoup plus contagieux, mais moins méchant. C'est pour ça que quand les jeunes qui regardent à la télévision, pourquoi le monde entier...
Les gens âgés en Chine ne sont pas dans les maisons de retraite. Hein. Ils vivent avec leur famille la plupart
du
temps.
C'est notre
culture. Donc ils
peuvent
être contaminés assez facilement.
Assez facilement. Par exemple, mes parents sont occupés par une bande, la bande qui fait leur course. Donc, on fait beaucoup d'attention. C'est comme ça que je pense que le gouvernement, il avait eu raison de prendre cette mesure. Sauf que le virus, il est modifié. Il faut qu'on s'évolue aussi avec le temps. Je trouve que depuis une semaine, il n'y a pas de manifestation. Tout est calme. Je suis moins inquiet. Après, je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle amélioration par rapport... la gestion, il n'y a pas de confinement au sens strict. Et puis, même dans l'interprétation du gouvernement, ce virus qui n'est pas aussi contamineux, aussi méchant qu'avant. Donc, je pense que...
Ils vont changer.
Oui. Je pense... Il faut dire que même il y a 2 semaines, l'État a adopté 20 recommandations. Dans 20 recommandations, c'est similaire par rapport à la politique française. On est dans le bon sens, sauf que les jeunes qui sont impatients. Donc maintenant, c'est plutôt la course du temps. Et puis, c'est des dialogues. Mais vous savez, les Chinois sont pragmatiques. C'est le bon sens, c'est la retenue qui compte.
On fait une pause, Choubo. Et ben, on va parler de cette jeunesse, justement, qui est cette jeune génération en Chine, hein, qui est très, très particulière. En tout cas, qui est très différente de la vôtre.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Choubo, il est chinois, c'est l'auteur de « Au commencement était Shanghai » aux éditions Sidney Laurent. Alors cette jeune génération qu'on a vue manifester dans toutes les grandes villes de Chine contre la politique zéro Covid du gouvernement, elle est née dans ce que vous appelez la nouvelle Chine. Qu'est-ce qu'elle a de différent de vous, par exemple, qui étiez un enfant pendant la révolution culturelle ?
Je pense que la grande différence, elle est souciée beaucoup plus de leur propre intérêt. Notre éducation, par rapport à mon âge, on est éduqué par le sens de collectivité. Donc on pense d'abord à l'État, le devoir de l'État. Mais il a fait tout à fait légitime qu'ils pensent à leur l'avenir. C'est pour ça qu'il y a un décalage, ce qu'on appelle le cap de générationnel. Mais c'est une génération magnifique, travailleuse. Elle embrasse le monde. Elle veut que le monde reste en Chine. C'est pour ça que je pense que la jeunesse qui est beaucoup plus éduquée, qui parle très bien l'anglais, qui s'est très bien connectée. À notre époque, la Chine était fermée. Donc, c'est une jeunesse qui profite de l'ouverture de la Chine et elle grandit dans l'ouverture de la Chine.
Vous êtes né, vous avez grandi dans un pays fermé. Je crois que vous n'avez su en Chine que les Américains avaient marché sur la Lune que 10 ans plus tard.
Oui, moi je suis né dans les années 60, donc on ne connaît pas l'époque parce que la Chine était fermée. Et moi j'ai su plutôt le profit de la politique de Deng Xiaoping, donc j'ai pu entrer dans l'université, donc c'est le fameux concours de Gaokao qui m'a sauvé la vie. C'est pour ça que je suis même aujourd'hui dans votre studio. En France, c'est presque impensable. Donc toute notre génération née dans les années 60 est reconnaissante à Deng Xiaoping.
Mais la politique de l'enfant unique qui a duré en Chine de 1979 à 2015 pour lutter contre la surpopulation, est-ce qu'elle a eu des conséquences sur la mentalité des enfants qui en sont issus ?
Oui, bien sûr. Dans mon livre dont j'ai beaucoup parlé, 2021, c'est une année charnière pour nous. L'enfant unique, bien sûr, il est le centre au monde. Et puis l'enfant unique, c'est l'enfant caté, c'est trois générations, c'est-à-dire le grand-parent-parent, il est au centre au monde. Donc, ils réfléchissent plutôt à leur propre univers. Nous, plutôt autres, parce que nous sommes plutôt d'une famille nombreuse, nous sommes trois. Ça, c'est une différence fondamentale. Mais parlons de l'enfant unique, je pense que d'un côté, c'est très bien. D'un autre côté, les enfants sont très vulnérables, ils n'ont pas de frères, de sœurs. Vous savez, ils sont très solidaires, mais ils sont très copains entre eux, c'est ça.
La Chine nous fascine, hein, nous les Français, et en même temps, elle nous fait peur hein, par sa taille, par sa réussite économique. Est-ce que vous percevez chez nous, ça fait 3 ans que vous êtes ici, chez Hubo, des biais qui nous empêchent de comprendre vraiment la Chine?
Ah, mais je pense que d'abord, c'est la culture. Les Français aiment bien le noir et blanc, les Chinois plutôt dans la globalité, ce qu'on appelle la médecine chinoise. Chez nous, on voit le monde en rond. Mais vous, c'est un angle uniquement pour savoir est-ce que c'est le bien, c'est pas bien. Mais les Chinois qui vivent comme ça depuis longtemps, donc les Chinois c'est plutôt pragmatiste, débrouillard. Dans mon livre, j'ai salué l'esprit de résilience shanghaïen, parce que c'est pour ça que la Chine a réussi. Depuis 40 ans, commencé par zéro, c'est 1,8% de PIB, maintenant c'est 20% du PIB du monde. C'est l'esprit pragmatiste, mais les Français qu'on n'est pas très bien. Moi, je pense que ce qui est important, surtout dans mon livre, je conseille des gens de regarder la Chine dans globalité. Pas uniquement le regard politologue, c'est plutôt sociologue, anthropologue, urbaniste, c'est pour ça. C'est le positionnement de mon livre.
Mais justement, alors j'ai une question à ce propos. Il y a aujourd'hui des différences de classe dans la société chinoise. Hein. Même dans une ville comme Shanghai, telle que vous en parlez dans votre livre, il y a ceux qui ont profité de l'ouverture au commerce depuis 20 ans, mais il y a aussi ceux qui n'ont qu'un petit salaire, un petit logement ou pas de logement du tout. Puis il y a ceux que vous appelez les nouveaux Shanghaïens, c'est les paysans arrivés avec l'exode rural. Eux aussi, ils sont pauvres. Hein. Et puis il y a les milliardaires qui sont plus de 600 en Chine maintenant et la plupart sont à Shanghai. Et puis il y a les stars chinoises qui ont beaucoup d'influence parce qu'elles ont des millions de femmes, de fans. Est-ce qu'il y a des frictions entre toutes ces classes sociales différentes et toutes nouvelles en Chine?
Oui, une friction, comme vous dites, c'est assez grande parce qu'avant, c'était la grande marmite. Donc on touche le même salaire, c'est un pays très égalitaire. Maintenant, il y a des gens qui sont des milliardaires. Mais même pendant un an, un milliardaire qui est né assez automatiquement, c'est trop facile. Et ceci n'étant, encore la population générale elle est encore moyenne. Par exemple, le Premier ministre a prononcé que 600 millions de Chinois qui touchent 1 000 yuans par mois. Donc, c'est à Shanghai aussi. Donc, comment vous l'avez interprété? On a besoin d'un gouvernement stable. On a besoin d'un rêve chinois. Heureusement, à Shanghai, on a encore rêve shanghaïen. Et les gens vivent en cohésion sociale. Ça, c'est merveilleux. Il faut que cette cohésion sociale reste encore pour que la Chine développe. La Chine, maintenant, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Mais par PIB habitant, on n'est pas aussi trop. Donc, on est encore loin. On rêve d'être un pays modeste, moderne, au top niveau, mais il faut travailler à longue haleine. C'est pour ça que je pense que la stabilité est beaucoup plus importante, vu d'un Chinois qui vit ici.
Merci, Hubo, d'être venu en direct sur Europe 1. Votre livre s'intitule « Au commencement était Shanghai ». Il est paru aux éditions Sidney Laurent.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, est arrivé à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve demain matin à 9h et je vous laisse entre les mains, si l'on peut dire, de Pierre de Villeneuve qui vient de faire son entrée dans ce studio. Quel est le programme des grandes voix, Pierre?
Eh bien, deux grands sujets, la tiers mondialisation de la France et Macron en Amérique.
Eh bien, bonne émission.
Merci.